êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu. Il est 17h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. L'espace aérien national est réouvert pour les vols civils et commerciaux après être resté fermé depuis le mois d'août. Une décision prise hier par les autorités nigériennes. Des précisions dans un instant. Environ 2000 personnes ont fui l'insécurité dans leur village de Tinarefan pour se réfugier à Bankilari. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage d'un déplacé sur leurs conditions de vie. Dans le magazine, vous entendrez la différence entre la grâce et l'amnistie. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Nous débutons ce journal avec cette brève. Les autorités nigériennes ont annoncé hier la réouverture de l'espace aérien national pour les vols civils et commerciaux. Pour rappel, l'espace aérien du Niger est fermé depuis le 6 août 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie face à ce qu'ils appellent une menace d'invasion militaire à partir des pays voisins suite au coup d'état militaire du 26 juillet. Toutefois, cette décision ne s'applique pas aux vols militaires et autres vols spéciaux qui, eux, sont soumis à l'autorisation des autorités compétentes. Depuis donc les événements du 26 juillet au Niger, les leaders d'opinion ou religieux appellent les citoyens à la paix et à la cohésion sociale. Al-Mumunu Moru, chef de village de Tirozerine, s'est inscrit dans cette dynamique. Pour lui, la paix est essentielle pour le Niger car elle favorise la stabilité, encourage le développement et renforce la cohésion sociale. On le coûte au micro de Ahmed Felan.
L'appel que nous lançons à la population en ce qui concerne la situation actuelle de notre pays, d'abord c'est implorer Allah pour qu'il accompagne les nouvelles autorités, que la population comprenne que cela est du désir du puissant miséricordieux. Nous appelons toute la population pour une cohésion sociale, pour qu'il y ait la paix dans le pays, que Dieu nous accompagne dans tout le pays, dans toute la communauté musulmane. En ce qui concerne les jeunes, nous leur lançons un appel pour qu'ils apportent leur contribution pour la cohésion sociale et la paix. Sur l'ensemble du territoire, des prières et des invocations sont faites. Les ulémas continuent à prêcher dans toutes les mosquées et même dans les lieux de baptême et de mariage. Les invocations sont de nature à ce qu'il y ait la paix dans le pays. C'est ce souhait qui est exaucé.
Entre le 30 août et le 2 septembre, un total de 362 ménages, ce qui représente 1909 personnes, ont quitté leur village de Tinarefan pour se réfugier à Bankilari pour raison d'insécurité. Le sort de ces ménages dépendra de la manière dont la situation sera gérée par les autorités locales, les organisations humanitaires et la communauté internationale. Youssouf Ag Isifala, habitant de Tinarefan, témoigne au micro de Youssouf Ilewat.
Toutes les personnes ont fui. Je suis peut-être la dernière personne à quitter le village. La population a quitté dans la peur, puisque personne ne peut leur dire de rester. Les informations circulant comme quoi plusieurs civils ont été tués aux alentours du village. Ici à Bankilari, on est confronté à plusieurs problèmes comme le manger, l'abri et les médicaments. Nous n'avons rien à emporter dans notre déplacement, pas même un sou. On est arrivé les mêmes vite. Nous avons été recensés par les autorités locales qui nous ont promis une assistance.
La suite de ce journal, 210 briques de cannabis, soit plus de 170 kilos, c'est la quantité de drogue saisie par la police de Baleyara le samedi au poste de contrôle à l'entrée de la ville. Selon la police, la drogue a été dissimulée dans deux sacs à sandales par trois individus pour l'intérieur du pays. Écoutons les explications de l'inspecteur de police Hassan Abdou Saleh au micro de Cédé Abdou Winditane.
À l'entrée de Baleyara, en venant de Niamey, les enfants ont ramassé deux grands sacs contenant des colis de cannabis au nombre de 1010, dont le poids est estimé à 175,5 kg. À cette occasion, je remercie tous les FDS et de continuer à redoubler d'efforts pour que nous puissions empêcher la vente et la consommation de la drogue dans tout le Niger en général et en particulier dans le département de Baleyara. L'appel que je lance à la population de ne pas avoir peur, de ne pas laisser le travail au FDS seulement. Si la population nous aide d'informer qui de droit, s'ils n'arrivent pas à nous toucher, d'informer les chefs de quartier, eux aussi de leur côté vont informer les chefs de village. Les chefs de village également vont transmettre l'information au préfet, ainsi de suite.
Parlons santé à présent. Le centre de santé d'Ayeru accueille par jour entre 80 et 100 malades de paludisme venus d'Ayeru et de ses environs. Une situation qui démontre que le pic de la maladie est atteint. Selon un infirmier, beaucoup d'ONG et l'État leur viennent en aide pour soulager les populations. Loukoumane Moussa, infirmier au CSI d'Ayeru, explique la situation au micro de notre envoyé spécial Salam Toukadri.
On est dans le pic palu, il y a assez de patients. À peu près, on peut consulter dans la journée de 90-95 jusqu'à 100 patients par jour. On est en train de s'organiser avec l'appui de certains partenaires qu'on a. On a APB qui est là, qui nous appuie en agent personnel. Et il y a aussi Anima Bifen qui est là. Il y a Kopi qui a recruté deux agents pour nous. Avec ça, on est en train de gérer avec les agents de l'État qui sont là. On est en train de diminuer avec les campagnes de la CPS Simio Prophylaxie saisonnière pour les enfants de 3 à 5, 9 mois. Il y a des sensibilisations qu'on est en train de faire dans la ville. Comment faire pour se prévenir contre le paludisme? Il y a des partenaires qui sont en train de nous appuyer en médicaments. Les moustiquaires aussi sont vraiment disponibles. On a assez de cas de malades qu'on devrait hospitaliser. Et malheureusement, on n'a pas assez de lits comme ça se doit.
À Maradi, c'est plus de 30 000 cas de paludisme qui ont été enregistrés depuis le début de l'année au niveau du district sanitaire de la ville. Malheureusement, on dénombre 168 décès pour la plupart des enfants. Pour Mme Idi Safiatou, responsable du centre de la surveillance épidémiologique du district, des efforts sont fournis et consentis pour protéger la population du paludisme. Elle est interrogée par Mohamed Maman.
Par rapport à la situation actuelle, donc de la semaine 1 à la semaine 34, nous sommes à 30 469 cas de palu, avec 168 décès. Déjà, si nous avons des cas gravataires, nous les référons directement au niveau du CHR. Donc, les dispositions prises pour les districts, d'abord, il y a les moustiquaires qui ont été distribués depuis 2022. Cette fois-ci, nous sommes à notre deuxième passage de la campagne de chimio prévention saisonnière pour les cas de palu chez les enfants de 3 à 5 à 9 mois. Nous disposons des antipaludiens que le ministère a mis à notre disposition. Donc, tous les cas pour les enfants de 0 à 5 ans, donc le traitement est gratuit. Et pour les adultes, en tout cas, les médicaments sont disponibles.
Un mot d'éducation au Niger, alors que la rentrée scolaire 2023-2024 s'approche, les parents d'élèves attendent toujours l'adoption des résultats des travaux du comité chargé de la révision des frais de scolarité dans les écoles privées. L'organisation ASSO-EPT souhaite rencontrer les nouvelles autorités en charge de l'éducation en vue de la prise en compte de ces résultats. Écoutons Bizo Moussa, vice-coordinateur ASSO-EPT, également membre du comité chargé de la révision des frais de scolarité. Il est au micro de Asmane Chena.
Nous avons fait le travail, on a transmis depuis l'année passée le résultat de ces travaux, puisque c'est le gouvernement qui nous a instruit de faire des travaux d'arrache-pied pour qu'il ait ce résultat-là et que les prix puissent être adoptés, en tout cas à partir de la rentrée de l'année passée. À cette date, je suis au regret de vous dire qu'il n'y a pas eu une avancée significative par rapport à ce travail qui a été mené vraiment d'une efficacité certaine, en tout cas par ce comité-là qui a été mis en place. C'est mené un secret pour personne. Les promoteurs des écoles privées certaines abusent. C'est pour cela qu'on avait voulu, à travers ce comité, vraiment réglementer. Nous sommes en train de voir comment rencontrer les nouvelles autorités pour échanger et voir comment nous pouvons mettre en selle les résultats de ces travaux sur la révision des prix de scolarité. Parce que si on les fait, on rend un service à toute la population. Parce qu'aujourd'hui, les écoles privées sont dominantes en termes d'enseignement au Niger. Rarement, on peut trouver une famille où on n'a pas au moins un enfant qui est dans une école privée.
L'actualité en région, la situation agro-pastorale de la région de Diffa est quelque peu inquiétante selon le président du conseil régional. Cette année, il y a la rareté des pluies et l'invasion des oiseaux granivores sur les semis. Comme la saison se poursuit, il y a lieu peut-être d'être optimiste vers la fin. Korodji Dalla, président du conseil régional de Diffa, est au micro de notre envoyé spécial Tarnan Foudey.
La situation agro-pastorale de la région, pour le moment, on attend le bilan technique, mais vu la pluviométrie qui est un peu irrégulière, nous sommes en droit de dire que la situation n'est pas réalisante. Du moment où il y a eu jusqu'à 5 à 6 semis, ça n'a pas donné. Il y a les menaces des sauterelles qui ont annihilé aussi toute la production. Et au-delà, nous n'avons pas réussi assez de pluie pour que le pâturage soit abondant. Sur le plan pastoral, la situation n'est pas bonne pour le moment parce qu'il y a pas eu de pluie et le peu que le pâturage est sorti, il y a eu des séquences sèches qui ont fait en sorte que nous avons des sols nus. Et c'est pour vous dire que les éleveurs en sont conscients. Et si on ne prend pas de dispositions en faveur des éleveurs, la situation sera très compliquée.
En bref, ce lundi, Nairobi, la capitale du Kenya, accueille le sommet africain du climat qui rassemble des décideurs africains. L'ambition de cet événement est double, à savoir positionner l'Afrique comme un acteur majeur dans les énergies renouvelables et solliciter un soutien financier global. Il se concentrera sur l'apport des solutions novatrices pour le développement durable et le financement climatique, tant pour l'Afrique que pour la communauté internationale. Ce sommet sert de prélude à la COP28 à Dubaï qui débutera le 30 novembre où la question des énergies fossiles sera centrale. En sport, l'Académie des arts martiaux de Niamey a accueilli samedi et dimanche la 6e édition du tournoi de taekwondo dénommé Étoile du Sahel. Le thème retenu pour ce tournoi est le renforcement de la cohésion sociale entre les pratiquants de cette discipline, mais également une occasion de détecter des jeunes talents nigériens. Abdou Sani, secrétaire général de l'association ONG Taekwondo, est au micro de Hasmi Kourouza.
On avait commencé en 2012, c'était une première édition. Donc on a remarqué qu'il y a, il y a beaucoup d'enfants, donc les minimes, qui aiment beaucoup le taekwondo. Et ce sont des jeunes talents qui seront appelés à représenter le Niger sur le plan international. Donc pour pousser les jeunes talents-là à plus grandir dans le monde du taekwondo, on a eu l'idée de dénommer la compétition Étoile du Sahel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étoiles qui sont là, qui sont en train de grandir. Donc voilà là où vient l'idée d'Étoile du Sahel. La compétition, c'est pas uniquement le groupe de Niamey, on a la participation de la région de Toso. Nous avons également Douchi, nous avons le Togo également, qui vient donner de sa présence.
Le magazine de ce journal La Grâce et l'Amnistie sont deux éléments qui excluent la responsabilité pénale et qui aboutissent tous deux à mettre fin à l'exécution de la peine d'un condamné. Pour comprendre leur différence, Anissé Karim s'est entretenu avec le magistrat Attaher Liman Ahmed. On l'écoute.
Monsieur le juge, on veut savoir quelle est la différence entre une grâce et une amnistie. Mais d'abord, définissez-nous ces deux termes.
Du point de vue définition, on entend par grâce l'acte par lequel le président de la République dispense un condamné frappé d'une condamnation définitive et exécutoire de subir tout ou partie de sa peine.
Et combien de types de procédures peut-on distinguer?
On distingue maintenant deux types de procédures. La procédure pour obtenir la grâce peut être individuelle et elle peut aussi être collective sous forme de remise de peine qui est accordée à certaines catégories de délinquants. Maintenant, l'amnistie, elle, s'est définie comme un acte législatif relevant de la compétence de l'Assemblée nationale ou du Parlement. Elle est décrétée par une loi qui supprime les caractères d'infraction à certains faits. La différence entre la grâce et l'amnistie, c'est que la grâce et l'amnistie aboutissent toutes deux à mettre fin à l'exécution de la peine d'un condamné. La grâce est un acte du président de la République, tandis que l'amnistie relève de la compétence exclusive du Parlement. Un autre aspect résulte du fait que la grâce diminue ou supprime les quantums de la sanction, mais elle ne fait pas disparaître la condamnation qui reste inscrite au casier judiciaire. Maintenant, l'amnistie, d'un autre côté également, si elle est accordée à une personne, elle empêche même l'exercice d'une poursuite contre cette personne.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, à nos journaux en langue nationale. À partir de 18h15, intervient le forum de Studio Kalangu sur la thématique comme coopération militaire. Quels sont les risques et les avantages? C'est un forum présenté par Mokhtar Hamadou. N'oubliez pas, réécouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce à RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.
Studio Kalangu. À Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Geskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Sarawnia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz.
Studio Kalangu.